RMC After Europe, le podcast Nicolas Villas.
Oh, vive, ravi de vous retrouver, nouveau numéro de ce podcast After Europe, et bien plus encore, un podcast qui d'ailleurs fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on part en Turquie. Ce jeudi, l'OM sera à Istanbul pour affronter le Galatasaray. Des Marseillais qui ont plutôt intérêt à gagner face à des Turcs leaders du groupe. Mais ne vous fiez pas à ce classement. Le football turc ne va pas au mieux et ça dure depuis maintenant un moment. On va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi, comment le Turc football, aussi bien de club que de sélection, en est là.
Gökyüzünde dalgalanan parlayan Türk bayrağı Sağları titreten 11'i bir aslan parçası
Et avec nous pour analyser cela, Yusuf Kenancalik, journaliste sportif, journaliste radio en Turquie, il est basé à Istanbul. Salut Yusuf, merci d'être avec nous.
Pas de soucis Nicolas, salut à tous.
Il te plaît le son ou pas?
Ouais, il est bien, t'as trouvé le rap avec aucune insulte, c'est bien. C'est bien, je te félicite.
Alors, pour rien te cacher, j'avais un peu le stress parce que je me suis dit, je comprends pas trop le turc, tu vois, j'avais pas ce choix là, hein, LV2, LV3. Donc voilà, ça tombe bien. Il a joué plus de 5 ans en Turquie, il a défendu les couleurs du Bursaspor dans Karagüsü. Ricardo Fati, salut Ricky, merci d'être avec nous.
Salut Nico, salut à tous.
Comment ça va la Regina, mon Ricky?
Ça va, on est là, qu'on termine tranquillement la carrière du côté de l'Italie. Bon là, je joue pas trop parce que j'ai eu des petits soucis physiques, puis après des petits soucis au niveau du club. Mais bon, j'espère rejouer dès janvier.
On va te redonner le sourire grâce à ce podcast after, tu vas voir. Et lui, il est champion de France avec le LOSC, champion de Turquie avec le Galatasaray, entre autres. Il a aussi joué pour Başakşehir, Bursaspor, Adana, Demirspor, Aurélien Çecu. Comment va Aurélien?
Ça va mon ami, ça va et toi-même?
Eh ben, bonjour, ça va.
Bonjour à tous.
Je te remercie. Comment il va le néo-retraité puisque tu viens de raccrocher les crampons comme on dit?
Ben écoute, ça va, hein, ça va, on s'occupe des enfants, on s'occupe de madame, on s'occupe des affaires, ça va, tout va bien.
Tout va bien. Des projets en perspective?
Ouais, ben, j'en parlerai dans un futur. Je ferai contact à toi et on en reparlera.
vas-y, fais-moi croquer surtout. Jeudi, l'OM affrontera donc le Galatasaray qui est en tête de son groupe d'Europa League. Alors, mais si on fait un constat global hein, sur les résultats des clubs turcs en Coupe d'Europe, c'est assez compliqué quand même ces dernières années. Depuis 2009, la meilleure perf d'un club turc en Ligue des Champions, c'est un quart de finale. C'était le Galatasaray en 2013. Le club stambouliote, qui est le seul club de son pays à avoir remporté une compétition européenne. 17 mai 2000, Copenhague accueille la finale de la Coupe de l'UEFA. Le Galatasaray d'Akan Şükür, de Georges Hadji, Tafarel, emmené par Fatih Terim, affronte l'Arsenal de Wenger, Vieri, Petit, Bergkamp, Pont-Henry. 0-0 après 120 minutes, le titre se décide au tir au but. Popescu s'élance et...
Haydi Popescu! Haydi oğlum! Haydi oğlum! Haydi! Gol! Gol! Bu Fabrice! Gol! Levent Cimdeğer! Bu Fabrice! Bu Fabrice! Kaldım şu güzelliğe baktım! Kaldım bu Fabrice!
Et quelle émotion dans la voix du commentateur. Aurélien, toi qui connais bien ce club de Galatasaray, yep. Est-ce que quand tu y as joué, tu as senti la fierté, le poids aussi de ce moment, de cette Coupe d'Europe, la seule donc remportée par un club turc?
Bien sûr, les supporters nous le rappellent tous les jours, même dans les stades, il y a les effigies à cette Coupe-là. Et puis les anciens, c'est un club qui sait bien rendre hommage à ses anciens joueurs, donc il y a des anciens qui venaient de temps en temps nous donner des conseils, qui venaient regarder des matchs.
Ah, ils étaient toujours présents, donc. Hein.
Ouais, bien sûr.
Youssouf, est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de complexe de la part des clubs turcs par rapport à leurs résultats en Coupe d'Europe?
De complexe, non, mais d'attente, oui. Ils attendent le retour de leur investissement. Forcément, on est le pays qui dépense le plus dans les transferts. Après, on est très mauvais en Coupe d'Europe, on n'arrive pas à se qualifier, une seule coupe comme tu l'as dit. Donc forcément, il y a une attente, mais je ne pense pas que ce soit un complexe. Le premier objectif, et Ricardo et Aurélien me le diront aussi, c'est le titre en Turquie. Si tu es champion, c'est pas grave si tu as été mauvais en Europe. Par contre, si tu n'es pas champion et que si tu as été mauvais en Europe, Là, ça va mal pour la saison prochaine.
Ouais, Ricardo, alors toi qui as connu aussi les clubs, des clubs turcs de l'intérieur, tu dirais aussi qu'il y a plus une attente qu'un complexe finalement par rapport aux résultats européens?
Ouais, c'est ça. Et comme disait Youssouf, c'est vrai qu'en Turquie, il y a une dimension locale, une dimension nationale qui est très très forte. C'est-à-dire battre le rival, et c'est super important. Le derby stambouliote, bien sûr, entre le Gala et, Fenerbahçe, ça a une plus grosse attente qu'un match de Coupe d'Europe là-bas. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu en retrait sur le plan européen. Après, il y a aussi des avantages hein, au niveau tactique, technique, mais ça, je pense qu'on on y reviendra. Mais ouais, je pense qu'il y a surtout aussi un rapport de force entre les équipes qui est exacerbé en Turquie.
Alors Youssouf, cela dit, quand on regarde la meilleure perf pour un club turc en Ligue des Champions, c'est une demi-finale hein, pour le Galatasaray ouais. en 89. Comment on explique ce plafond de verre finalement dans cette compétition?
Bah, il faut dire aussi que c'était même pas la Ligue des Champions en fait.
Ouais, c'était la Coupe des clubs champions. Ouais. Ouais, ouais.
Voilà, c'est très ancien. Comme je t'ai dit, hein, c'est très local. Je vais te donner un exemple très très récent. Fenerbahçe a battu Galatasaray dans le derby. Ils sont à 10 points du leader. Galatasaray à 12 points et ils ont fêté ça comme s'ils étaient champions. Donc le local est très important. On n'arrive pas à dépasser certains objectifs. Après, plus on avance en Coupe d'Europe, plus on risque d'être mauvais en championnat. Fenerbahçe l'a vécu, Beşiktaş l'a vécu. Plus tu avances, plus tu as de matchs, plus tu es fatigué. Donc tu n'arrives pas à suivre en championnat. Les équipes turques, elles ne sont pas faites pour jouer un match tous les trois jours, donc forcément, à un moment donné, il faut choisir. Et souvent, le choix est vite fait par rapport au championnat local, quoi.
Aurélien, ça, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi. Et surtout, est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu t'attendais à autre chose au niveau des attentes, niveau européen, quand tu es arrivé en Turquie?
Bah, disons que ouais, niveau européen, quand tu joues la Champions League, tu veux jouer chaque année et tu veux aller plus loin, tu vois.
Ouais.
Mais dès que vous signez dans un club comme Galatasaray, par exemple, le premier message qu'on vous fait passer, c'est de ne pas perdre le derby, quoi. C'est comme il disait Ricardo. Donc, c'est le local est plus, comment dirais-je, c'est plus important que la Coupe d'Europe, en fait. Ça s'est vu encore dernièrement, peut-être au risque de me répéter, Fenerbahçe qui gagne à Galatasaray. Les mecs, ils ont fêté, on dirait qu'ils ont gagné le titre de champion, alors que ça fait longtemps ils n'ont pas gagné de titre, quoi. Donc, c'est plus axé sur le local qu'autre chose, parce que... c'est beaucoup plus important pour eux.
Alors justement, Youssouf, on va prendre
la rivalité locale.
Ouais, on va prendre un cas concret. Alors les contre-performances des clubs en C1, des clubs turcs, elles se vérifient cette saison. Après 4 journées en phase de groupe, le Beşiktaş, qui est dans la poule de l'Ajax, Dortmund et du Sporting Portugal, ne compte aucun point. Alors finalement, les supporters, ils le vivent pas trop mal parce que c'est surtout le championnat où il y a une forme de résignation, où il y a quand même une déception chez eux.
C'est sûr qu'il y a une déception parce que l'effectif de Beşiktaş est plus important que l'année dernière. Donc il y a eu des transferts, il y a Pjanic qui est arrivé, Alex Tekchiari qui est arrivé. Donc il y avait une attente par rapport à la Ligue des Champions. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, le championnat permet d'aller en Ligue des Champions. C'est ça l'objectif en fait. Les clubs sont endettés, donc ils sont obligés d'aller en Ligue des Champions pour avoir des revenus. Et donc, ils sont obligés d'être champions pour aller en Ligue des Champions. Donc, l'objectif primaire, c'est d'être champion, pour pouvoir aller directement en Ligue des Champions. Après, ce que tu fais là-bas, ce n'est pas important, parce que ton objectif, l'autre saison, la saison prochaine, c'est encore d'être champion pour pouvoir aller régulièrement en Ligue des Champions. Donc, y a des critiques par rapport à Beşiktaş. Bah, ils n'ont pas performé cette année. Mais bon, l'important, c'est que Beşiktaş soit champion cette année pour les supporters. S'ils ne sont pas champions, s'ils sont éloignés, là, ils le sont. Et en plus de ça, s'ils sont mauvais en Europe, là, l'entraîneur part, le président change. C'est des trucs qui sont communs chez nous.
Alors, ce qui est fou, c'est qu'en France, pendant des années, on a critiqué les clubs français parce qu'ils ne jouaient pas l'Europa League à fond les matchs du jeudi soir. Finalement, Ricardo, on se rend compte qu'en Turquie, c'est carrément la Ligue des Champions qui n'est pas forcément valorisée par rapport au championnat.
Ouais, c'est clair. Comme disait Youssouf, ils savent qu'ils ne font pas forcément le poids. Et après, il y a aussi une moyenne économique qui est importante. Malheureusement, c'est ce qui guide un peu les clubs turcs, mais aussi tous les clubs aussi en général. C'est qu'on cherche à performer au niveau du championnat, au niveau local, pour justement avoir ces mains financières en Europe, et puis après, délaisser la compétition. C'est dommage, parce que je pense que la Turquie pourrait faire beaucoup mieux sur la scène européenne, surtout en Europa League. Il y a une compétition qui est plus à leur portée, selon moi.
Et le Galatasaray, adversaire de l'OM ce jeudi en Europa League, avait un derby ce week-end, match face au Fenerbahçe. Le Galatasaray menait 1-0 et puis...
Yaptı ortayı, savunmada Kim Min-jae. Şimdi İrfancan, İrfancan attı çalımını Kerem'e. İrfancan savunma arkasına Mesut'a gönderdi. Mesut gidiyor, Mesut karşı karşıya ceza sahasında. Mesut ve gol! Mesut!
Mesut Özil atıyor. Fenerbahçe kaptanıyla golü buluyor. Galatasaray 1, Fenerbahçe 1. Mesut Özil. Crespo'ya. Fenerbahçe atakta. Crespo!
Et avec cette défaite, le Galatasaray est 8e au classement à 9 points du Trabzonspor qui est leader. Justement, tiens, Youssouf, comparons à la Ligue 1 puisque le Galatasaray affronte l'OM. Est-ce que le 8e de la Super Ligue turque est au niveau du 5e de la Ligue 1?
Ouais, je pense pas. Il y a beaucoup de différences. Je pense que Ricardo a voulu un petit peu rentrer tout à l'heure. Tactiquement, techniquement, c'est très différent. Moi, j'ai vécu à Paris et j'ai regardé pas mal de matchs. Aurélien et Ricardo, ils connaissent très, très bien, beaucoup mieux que moi, le foot français. Mais déjà, la base du football en France, c'est beaucoup plus développé qu'en Turquie. Tactiquement, c'est beaucoup plus développé. Après, le rythme, c'est pareil. Par exemple, je vais donner un exemple. Luis Gustavo, c'était un joueur qui avait du coffre en France, mais qui ne suffisait plus à une équipe comme Marseille. Et il est venu, il a été un des meilleurs joueurs du championnat turc. Donc, c'est un peu la comparaison pour pouvoir voir le niveau entre les deux championnats. Après, il y a eu des très bonnes équipes, de très bons joueurs. Aurélien, par exemple, a joué dans un effectif qui était pas mal du tout à Galatasaray. Moussa Sow, pareil, quand il est arrivé en Fenerbahçe, il a joué dans un effectif qui était pas mal. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Tu ne peux pas dire le 8e, le 9e. Il y a 3 ou 4 équipes qui peuvent rivaliser peut-être en France. Après, le reste, c'est un petit peu plus compliqué en Turquie.
Alors Aurélien, toi, tu connais bien le Galatasaray de l'intérieur. Tu connais bien la Ligue 1 aussi et Marseille en l'occurrence. Comment tu le sens justement ce Galatasaray-Marseille? Comment tu l'analyserais en avant-match?
Mais écoute, je pense qu'avec le match qu'ils ont perdu le week-end dernier, Galata, ils vont vouloir... déjà, ils auront la pression des supporters qui ne savent pas accepter la défaite 2 fois de suite en tout cas, surtout à domicile. Donc déjà, l'ambiance sera là, ils vont vraiment pousser. Et puis Fatih Terim, c'est un mec qui bien entendu, qui a fait les choses en Europe, qui veut repartir sur cette base-là, mais qui va s'appuyer justement, comme je disais, sur le résultat négatif du week-end dernier pour pouvoir faire des problèmes à Marseille. Maintenant, Marseille n'a pas, il ne faut pas oublier que Marseille n'a pas joué le week-end dernier. Est-ce qu'ils auront un manque de rythme? Est-ce qu'ils seront frais? Donc, ça va se jouer aussi là-dessus, tu vois, parce que le derby Fenerbahçe-Galatasaray, je peux vous dire qu'émotionnellement, ça prend beaucoup. En plus, ils ont perdu à domicile, donc comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ça? C'est assez indécis comme match, je dirais.
Ouais, Ricardo, tu le sens comment, toi, ce Galatasaray-Marseille?
Ouais, pareil. Aurélien a très bien résumé. Je pense que les Stambouliotes, ils auront envie de se refaire contre Marseille. Bon, ça reste un gros match, hein, parce que contre une grosse équipe. Je pense que si, que par rapport aussi au match aller, je pense que les Stambouliotes, ils voudront aussi montrer que c'est aussi chaud aussi à Istanbul. Donc ça va être un match intéressant à suivre. Après, au niveau de l'issue du match, pareil, hein, indécis. Marseille qui n'a pas joué ce week-end, qui a été aussi secoué par l'affaire de Dimitri, en plus Payet qui ne jouera pas. Et puis Gala qui sort d'une défaite. Est-ce qu'ils vont venir au Vanchard ou un peu timoré? Ça va être un match vraiment intéressant à suivre.
Tiens, petite parenthèse justement, Youssouf, il y a eu ces incidents qui ont beaucoup fait parler en France et à l'international lors du Lyon-Marseille. On en a parlé de ça aussi en Turquie, où on sait d'ailleurs que les ambiances sont souvent très chaudes, hein, dans les stades, hein.
Bah, c'est un peu venu au mauvais moment. En Turquie, on parle que du derby. Donc après, c'est dans les pages intérieures, dans les journaux, ou alors c'est 1 minute ou 1 minute 30 à la télé, quoi. Donc l'international, bien sûr, ça fait parler. Ça, enfin, les autres incidents aussi, les incidents qui ont eu auparavant, ça a fait parler, bien sûr. Mais bon, après, ouais, chez nous, c'est vraiment local, comme je t'ai dit, hein, les objectifs, etc. Et tout ce qui est football, c'est très local. Donc quand il y a un derby Galatasaray-Fenerbahçe, les autres sujets, bon, voilà, ça passe un peu à côté, quoi. Mais on en a parlé, forcément, parce que, comme Ricardo l'a dit, Dimitri Payet ne va pas jouer, c'est important. Je veux aussi dire, par rapport au premier match, que Galatasaray joue différemment en Europe qu'en Ligue. Donc en championnat, ils sont beaucoup plus libres, beaucoup plus ouverts. Alors qu'en Europe, ils sont beaucoup plus patients, ils sont beaucoup plus concentrés. Le premier match contre Marseille, c'était un très bon match de Galatasaray. Ils ont bien fermé, pas trop d'espace. Pareil contre la Lazio. Donc il ne faut pas s'attendre au même Galatasaray en Europe qu'en Ligue. En Ligue, il y a forcément une envie d'attaquer, mais en Europe, ils sont beaucoup plus patients.
Alors, puisqu'on parle du niveau du championnat turc, hein, la Turquie est 18e au classement, au ranking UEFA, derrière des championnats comme ceux de l'Autriche, de l'Écosse, de l'Ukraine, de Chypre. On en vient à se demander, après tout ce qu'on vient de se dire, quel est le niveau finalement de la Super League turque ? Est-ce qu'elle vaut vraiment cette 18e place au classement UEFA, Aurélien ?
C'est assez difficile parce que moi, quand je suis arrivé, comme il disait tout à l'heure Youssouf, il y avait vraiment un effectif de qualité. Aujourd'hui, c'est vrai que la Turquie arrive toujours à attirer des joueurs de bonne qualité. Maintenant, est-ce que c'est pas le fait qu'on change un peu trop d'entraîneurs dès qu'il y a 2-3 mauvais résultats, on change d'entraîneur qui avait un projet peut-être sur un an, voire deux avec l'équipe. Un autre qui revient avait un autre projet. Ça fait qu'au final, on n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, hein, une identité de jeu. Un projet sur le long terme, ça fait aussi que les joueurs se cherchent souvent sur le terrain. Le niveau, il va monter, il va descendre très rapidement. Moi, c'est la seule explication que je peux avoir maintenant. Comment il faut construire ça? Je vois par exemple l'exemple de Başakşehir qui, ces dernières années, ont eu de bons résultats. Parce que Abdullah Di, il a mis quelque chose en place et que ceux qui sont venus derrière se sont appuyés dessus pour pouvoir mettre Başakşehir qui est là à sa place aujourd'hui. Emre qui fait du bon travail. Donc, il faudrait qu'on s'appuie sur ce genre, enfin, pas on, mais les clubs turcs qui s'appuient un peu sur la longévité de certains entraîneurs, même si aujourd'hui, ce n'est que les résultats qui le feront, pour pouvoir rehausser le niveau du football turc, en général, j'ai envie de dire.
Et puisqu'on évoque le foot turc et le foot français, sachez que le dernier meilleur buteur turc du championnat turc évolue aujourd'hui en Ligue 1, et il s'agit de... Eh oui, Burak Yılmaz, le Lillois, meilleur buteur. meilleur buteur du championnat turc lors de la saison 2012-2013. Ça remonte hein, quand même. Hein. C'est d'ailleurs le seul Turc meilleur buteur de son pays sur les 12 dernières saisons. Donc. Alors justement, parlons un petit peu d'ailleurs de la politique finalement, de la Fédé, des instances du football turc par rapport aux étrangers. Alors il y avait une limite de joueurs étrangers qui avait été instaurée en 2010. C'était 10 par équipe, 8 sur la feuille de match, 6 en même temps sur le terrain. En 2015, la limite est tombée, la barrière est tombée. Et depuis l'été dernier, nouvelle instauration de quotas pour les joueurs étrangers, 14 par équipe, qui passera à 12 la saison prochaine, à 10 en 2023. Youssouf, on a l'impression que les décideurs du foot turc, ils cherchent encore la bonne formule. Quelle est la meilleure finalement?
Je pense qu'ils ne l'ont pas trouvée. Je pense que la formule n'est pas d'interdire, mais de produire des joueurs, de faire évoluer les centres d'entraînement, les académies. Tu ne peux pas interdire à un joueur de venir et de dire, voilà, tu es français, tu ne vas pas jouer, c'est con. c'est bête, ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'il faut qu'il y ait des jeunes joueurs turcs qui puissent évoluer en championnat. Tu peux mettre un quota. Tu peux dire, voilà, tu dois mettre 3 jeunes joueurs de ton académie dans les 18, dans les 25, je ne sais pas. Tu peux mettre des quotas comme ça, mais mettre des quotas aux étrangers, ça ne va pas te faire évoluer parce que on va donner l'exemple d'Aurélien Chidjou. Aurélien Chidjou, il est venu, il était champion de France, il est international camerounais, et donc il vient, il apporte son expérience. Donc un jeune joueur qui va jouer à son côté, il va évoluer. Donc tu ne peux pas interdire, tu ne peux pas dire aux gens, aux équipes de ne pas prendre des joueurs étrangers. Après, je conçois que les équipes turques dépensent d'une manière qui n'est pas très raisonnable. Là, je peux le dire, par exemple, un joueur qui va prendre 500 000 euros en championnat de France, qui est plutôt une bonne moyenne pour un joueur français, il va être payé 2 millions, 2 millions 5 net en Turquie. J'avais parlé avec Mamad Ünyan, quand il est arrivé à Fenerbahçe. Je lui ai demandé pourquoi tu as signé à Fenerbahçe. Il m'a dit j'ai doublé mon salaire, alors qu'il prenait la même chose. C'était 2 millions, 2 millions 5, mais à Marseille, il payait la moitié
en impôt.
Et là, il était net. Donc, je conçois que les dirigeants du football turc veulent qu'il y ait plein de joueurs, jeunes joueurs turcs qui puissent avoir leur chance. Mais c'est pas comme ça que tu peux permettre aux joueurs d'arriver, d'être prêts pour d'autres championnats, pour l'équipe nationale. C'est pas comme ça qu'on fait évoluer les joueurs. Et puis surtout, ils ont l'impression qu'en interdisant les étrangers, ça va permettre de faire sortir des joueurs turcs, alors que c'est pas le cas.
Ouais. Alors justement, tiens, Ricardo Aurélien, est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Youssouf? Est-ce que la Turquie, ça paye bien finalement, ou beaucoup mieux que d'autres championnats?
Écoute, moi, je pars pour une bouche. Vas-y, Ricardo, vas-y.
Ah, excuse-moi, non, vas-y, Aurélien, vas-y.
Vas-y.
Ils sont trop polis, les mecs. Vas-y, Ricardo, je tranche.
Non, mais pour rebondir, en fait, surtout pour rebondir à ce que disait Youssouf, c'est vrai qu'il y a un côté un peu irresponsable au niveau des clubs, au niveau, au niveau des salaires ou des investissements. Mais après, je pense que c'est aussi le moyen aussi à la Ligue turque d'exister, en fait, de mettre un gros coup de projecteur. Ils sont c'est un clair. Peu contraints de, pas de surpayer, mais voilà, d'attirer des grands noms par ce moyen-là. Et ça a aussi très bien marché. Bon, il y a Aurélien avec nous, mais il y a aussi des joueurs comme Drogba qui sont venus, comme Schneider même ouais. Podolski, qui ont apporté vraiment de la lumière à la Ligue. Et il y a aussi des joueurs qui sont pas forcément... ou qui n'étaient pas forcément connus à la base, qui sont venus en Turquie, attirés aussi, certes, par le côté financier, mais qui ont après découvert la Ligue, qui sont devenus après des très grands joueurs. Même Alex à l'époque, qui était le Brésilien, même si c'est un joueur comme connu, mais il a connu une célébrité très folle ici en Turquie. Donc voilà, la Turquie a su créer ses stars aussi. Et c'est ça, en fait, qui attire les étrangers. Après, pour revenir à ta question, Nicolas, oui, ça
paye. Je croyais que tu allais esquiver, tu vois.
Il faut être clair, ça paye bien. Non. On est entre nous, on est, oui. On est clair entre nous. Oui. Non, ça paye. C'est vrai que c'est une des principales raisons. Et tout ça, même là, ça peut attirer des joueurs qui viennent de Pologne, des joueurs africains. Et en fait, ça attire tout type de joueurs. Et moi, c'est ça, en fait, qui rend pour moi le championnat aussi attractif et qui rend le championnat aussi assez intéressant, c'est que tu peux trouver des pépites vraiment pas mal dans des équipes qui sont pas très connues. Par exemple, il y a Konya, quelques années, qui faisait des très bons résultats grâce à ses joueurs serbes ou à ses joueurs africains. Ouais. Et chaque saison, en fait, tu as une équipe qui sort et qui, voilà, qui donne un peu de fraîcheur. Cette année, c'est Hatay Spor qui a réussi à attirer un mélange entre des joueurs d'expérience comme Mambiram Diouf, le Sénégalais, et quelques bons jeunes, notamment de Ligue 1, voire même de Ligue 2. Voilà, ça permet aussi à ces genres de joueurs de se montrer, bon, faire de l'argent, de prendre des salaires plus conséquents, mais aussi de se montrer et de jouer dans des beaux stades, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le championnat turc est un championnat de qualité avec des très bonnes infrastructures.
Juste avant qu'Aurélien n'intervienne, je peux dire une chose sur Hatay. J'étais avec l'entraîneur d'Hatay la semaine dernière, j'étais là-bas, je suis allé visiter. C'est une très bon ville coach. Très proche de la Syrie, très difficile de faire venir des joueurs. Mais il m'a dit qu'ils envoyaient des recruteurs en national en France, national. Donc ils essayent de chercher vraiment la pépite, comme le dit Ricardo. Et deuxième exemple, Atif Yeşu, il a été meilleur buteur de la Ligue turque. Je pense que Ricardo et Aurélien le connaissent. On a joué dans la même équipe. Voilà, on a joué dans la même équipe. Donc c'est pour dire un petit peu le niveau. Donc je pense que j'aurais pu être professionnel peut-être. En venant ici, j'aurais pu avoir ma chance. Donc Atif, il est venu ici, il a gagné pas mal d'argent. Bon, il a performé, hein, je dis rien. Mais bon, le niveau, c'est que c'est un joueur de national, peut-être de Ligue 2. Mais il vient, il peut être meilleur marqueur, meilleur buteur du championnat turc. Donc après, c'est des opportunités pour certains joueurs, comme l'a dit Ricardo. Et c'est aussi la façon d'attirer la lumière sur la Ligue turque. Comme dernièrement, le transfert de Mesut Özil, il n'est pas venu pour rien.
Ouais. Aurélien, c'est une forme d'Eldorado, la Ligue turque, alors, pour un footballeur pro?
Ben écoute, ouais, bien sûr, comme il disait Ricardo, ça paye bien, on va pas se mentir, on va pas faire dans la fine bouche. Moi, personnellement, pour parler de mon cas, quand j'ai quitté Lille pour Galatasaray, c'est vrai que financièrement, j'ai fait un très très bon saut. Mais après, il faut pas oublier que je partais aussi parce que Galatasaray, c'est dès que le championnat commence, on sait pourquoi il joue, quoi. Je veux dire, il y a la Champions League, il y a le championnat, il y a la Coupe de Turquie. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, ouais, financièrement, c'est rien comparable à la France, quoi.
Et alors, Youssouf, tu disais, c'est vrai que les salaires pèsent beaucoup, hein, sur le budget des clubs turcs. C'est quoi les principales sources de revenus? Parce que je regardais, moi, le benchmarking qui est pondu par l'UEFA tous les ans. La part des ventes des joueurs en transfert dans le budget des clubs turcs est finalement très petite. On est autour de 10, 12, 13 %. C'est quoi? C'est les droits télé, la principale source de revenus? C'est l'apport des investisseurs? C'est le sponsoring? C'est quoi?
Bon, en fait, c'est au cas par cas, mais à la moyenne, je pense que ça doit être 60-70% de droits télé. Après, la vente des joueurs, là, les clubs turcs, ils ont appris à faire des transferts dans les dernières années parce qu'il y a une crise économique. Aujourd'hui, la lire turque, un euro vaut 14 lires turques. Donc, c'est énorme.
Moi, quand j'ai signé, c'était à 2,87.
Ah ouais, c'est
voilà,
pas la même.
Voilà, tu vois.
Punaise.
Tu vois, c'est 7 fois plus cher. C'est 7 fois plus cher. La vie, elle est très chère ici. Il y a une crise économique, donc les clubs doivent s'adapter. Ils doivent avoir d'autres revenus. Donc, ils sont obligés de prendre de jeunes joueurs, de les vendre. Fenerbahçe fait ça dernièrement. Ils ont pris un Hongrois, un défenseur central, un Hongrois Salai. Je pense qu'ils vont le vendre très cher. Voilà, et Kim Min-jae, qui a très bien joué au derby, je pense qu'ils vont le vendre cher aussi. Donc, ils essaient de trouver des petites pépites des autres championnats, par exemple en Chypre, en Grèce, etc. Après, les salaires, c'est vraiment mirobolant, on va dire ça comme ça. Ça a été mirobolant. Je pense que c'était la bonne époque quand Aurélien est venu. D'autres joueurs comme Wesley Sneijder, comme Drogba sont venus. Là, les clubs pouvaient se permettre de payer 3 millions, 3 millions 5, 2 millions, 2 millions 5 euros les joueurs. Mais là, aujourd'hui, tu ne peux pas prendre. Par exemple, Aurélien Tchédiou, tu ne peux pas le transférer. C'est impossible. Tu ne peux pas le faire venir. C'est vraiment exceptionnel si tu fais venir un joueur comme ça.
Franchement, parce il n'a que ça à faire en ce moment. Hein, donc,
Non, mais moi, je veux voir des joueurs de qualité. Donc forcément, Ricardo, Aurélien, plein de joueurs comme ça, je veux bien qu'ils viennent. Mais après, tu ne peux pas les payer au-dessus de 700, 800 000 euros. Et si tu compares un jeune joueur en France qui a été champion, qui a 23, 24 ans, s'il a la chance d'aller en Italie, en Europe, en Angleterre, en Espagne, etc., il va aller là-bas parce que c'est presque la même chose financièrement.
Alors justement, tu l'évoquais, tu dis les clubs turcs finalement apprennent à vendre ces dernières années, crise économique oblige. Ricardo, comment t'expliques que finalement il y ait si peu de joueurs turcs dans les grands championnats européens? C'est vrai que quand tu regardes même la sélection turque aujourd'hui, la majorité des joueurs évoluent en Turquie par exemple.
Ouais, alors il y a plusieurs raisons. Hein. La première raison, peut-être elle est aussi culturelle. C'est vrai que les Turcs, ils n'ont pas tendance à beaucoup s'exporter. Ils ne parlent pas trop la langue et les langues européennes, même si c'est vrai qu'il y a un changement par rapport aux dernières saisons. Non, mais par contre, c'est vrai que quand les Turcs s'exportent, ils se portent plutôt bien. Parce que c'est vraiment la crème de la crème qui arrive à partir, comme Burak, même si Burak il est parti assez tard.
Soyuncu.
Voilà, il y a aussi Cengiz, tout ça. Mais après, c'est vrai que le bon joueur turc, il est très important aussi pour les clubs locaux. Par exemple, s'il y a un très bon jeune Turc qui explose, lui aussi, sa première idée sera de partir soit à Galatasaray ou à Fenerbahçe. Parce que, comme on disait aussi au début, il y a une activité locale, il y a une dimension locale qui est très très forte en Turquie. Donc, le jeune Turc, au lieu de penser à jouer dans les grands clubs européens, il va peut-être d'abord penser à jouer au club, le club que son père supportait, partir à Trabzon.
Ah, on a perdu Ricardo. Ouais, et puis en plus, il y a cette histoire de politique des quotas qui fait que le joueur turc est plus cher aussi.
Donc pour le coup, conséquence, il y a moins de...
Il est revenu.
Non, t'avais perdu un instant, Ricardo.
Il est revenu, Ricardo.
Ah bon, on l'a reperdu, tiens.
Je vais reprendre de ce qu'il a dit. Il y a un quota qui permet d'avoir des jeunes joueurs turcs. Et les joueurs turcs est important parce que tu es obligé de faire jouer des joueurs turcs. Donc forcément, les clubs ne veulent pas qu'ils partent. Quand il n'y avait pas de quota, c'est l'époque où on a le plus exporté, en fait, comme Ricardo l'a pu l'expliquer, Cengiz, Burak, etc. Ils sont partis. Et là, aujourd'hui, enfin, à partir des années 90 jusqu'à 2015-2016, les championnats venaient prendre les meilleurs joueurs turcs. Tu vois, ceux qui s'étaient affirmés, Arda, Rüştü, etc., etc. Donc, c'était les meilleurs joueurs à leur poste en Turquie. Là, en ce moment, ils prennent les espoirs. Tu vois, ils viennent prendre en Ligue 2, ils viennent prendre en Académie, etc. Donc, Cenk Özkacar, par exemple, qui a signé à Lyon, c'est un jeune joueur turc qui n'a jamais joué en Ligue 1 en Turquie. Donc, ils viennent le prendre parce que voilà, c'est un potentiel. Il y a des recruteurs en France qui viennent recruter en Ligue 2 en Turquie. Ali Akman, pareil, Bursaspor, il est parti à Francfort. C'est un jeune buteur. Je pense qu'il va être international turc très bientôt. Donc, il est parti à Francfort. Il a été prêté, etc. Non, là, ils prennent les potentiels. Ils viennent plus prendre les meilleurs joueurs de Turquie. C'est des cas à part. Burak Yılmaz, c'est un cas à part parce que, voilà, Lille avait besoin d'un joueur d'expérience parce que le Krimi était parti. Donc, le profil correspondait bien. Mais ils préfèrent prendre Zeki Çelik qui jouait en Ligue 2. Et le faire évoluer et après en faire leur star ou Youssouf Yazıcı, pareil quoi, des jeunes joueurs, pas des le cas de Burak, c'est vraiment un cas à part.
Alors justement, puisque vous évoquiez les jeunes joueurs, Aurélien, comment tu jugerais toi la formation des clubs turcs? Comment elle se porte selon toi?
Moi qui ai été à l'intérieur, les coachs ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils font ce qu'ils peuvent, mais après j'ai l'impression qu'ils se... Il y a tout de suite cette barrière avec les jeunes dans la transmission, dans le fait de transmettre, parce que beaucoup de jeunes turcs, pour eux, l'entraînement, ça suffit. Je m'entraîne, je me douche, je rentre à la maison. Ils ne font pas d'extra. La nourriture, elle est très, très bonne en Turquie, il faut savoir. Il y a certains jeunes qui... Youssouf, tu sais ce que je veux dire. La nourriture, elle est très, très bonne.
On connaît ça.
Voilà. Et du coup, il y en a qui savent même pas comment manger. Il y en a qui savent même pas ce qu'il faut prendre avant un match. Donc, il y a beaucoup ce côté entraînement invisible qui n'est pas assimilé par certains jeunes, en fait. Ça fait que ceux qui sortent, comme on disait tout à l'heure, c'est des très, très bons et surtout des conscients. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai fait Galatasaray, Başakşehir. Bon, on était moins au contact des jeunes, mais j'ai fait Bursa et Adana. Mais les mecs, tu les vois en train de manger, ils boivent du coca, ils mangent des quantités. Tu te dis, mais mince, il va aller s'entraîner après. Tu vois, donc moi, c'est l'explication que je peux avoir du fait d'avoir côtoyé certains jeunes. Quoi.
Ricardo,
c'est culturel.
Ouais, pour rebondir, ce que disait Aurélien, c'est vrai qu'il y a aussi ce manque de vision des clubs. C'est dommage parce que des fois, tu as le jeune qui va commencer à progresser, mais hop, tout d'un coup, changement de coach, changement de direction, on part sur une nouvelle direction, une nouvelle vision. Et le jeune, il est assez perturbé aussi par rapport à ça. Et aussi le fait que, voilà, qu'il y ait aussi beaucoup d'étrangers. Il y a peut-être moins de proximité aussi avec les jeunes et c'est compliqué. Moi, pour ma part, Aurélien le sait, hein, Bursaspor, c'est un club qui est très réputé pour la formation. Des fois, on essaye de promouvoir des jeunes. Bon, Bursa le fait bien. Aussi un peu malgré eux, parce que maintenant, ils sont tombés en seconde division. Pour eux, le salut arrivera de ces jeunes, comme l'a été à Trabzonspor, Youssouf Yagici ou d'autres jeunes. Donc voilà, je pense que la Turquie doit vraiment investir sur leurs jeunes parce que pour moi, ça sera la solution en fait. Sera la solution.
Youssouf, bon, t'allais dire c'est culturel.
Ouais, c'est culturel d'une manière. Bon, en Turquie, on dit voilà, mange mon fils. Donc forcément, le petit à 4 ans, il commence à manger. Tu vois, tu commences à manger très tôt. Donc après, il faut l'éduquer. Mais pour l'éduquer, il faut des éducateurs. Donc si tu les payes pas, si tu n'as pas de budget, si tu n'as pas de terrain, si tu n'as pas de formule, si tu n'as pas de système, c'est impossible de faire venir des bons joueurs turcs, de faire évoluer des bons joueurs turcs. Il faut investir dans les académies. Mais après, l'investissement dans l'académie, c'est à long terme. Tu vois, la Masia, ça a été créé au début des années 80, à la fin des années 70. Et ses premiers fruits, c'était en 95, 96, tu vois. Tu ne peux pas avoir le joueur tout de suite. C'est pas des fleurs, c'est pas des tu vois, c'est pas un produit, tu fais pas sortir. C'est 10 ans au moins un investissement, et 10 ans il y a pas en Turquie, t'as pas 10 ans. Vous étiez venu pour parler de l'équipe nationale avec RMC, je leur ai dit la même chose. T'as 5 mois en Turquie, t'es performant, tu continues, t'es pas performant, tu pars. Président, entraîneur, joueur, qui tu veux, il y a pas de problème. Tu peux être la plus grosse star du monde à venir en Turquie, si en 5 mois t'as pas confirmé, tu pars, t'as pas le choix. Donc, l'investissement sur le long terme pour les académies, c'est trop de temps. Ils n'ont pas le temps d'investir, donc ils doivent jouer au championnat. Par contre, il faut des équipes qui puissent produire des joueurs. Donc, en Turquie, je pense que le manque, c'est ça. C'est que tout le monde croit qu'ils vont être champions, alors que c'est impossible avec les investissements qu'ils font, avec les budgets, les écarts de budget. Alors qu'il faut des équipes éducatrices qui puissent sortir des joueurs, de vendre des joueurs, peut-être évoluer économiquement de cette façon-là. Tu peux pas être Konya et champion de France, champion de Turquie, c'est impossible. Adana, c'est impossible d'être champion de Turquie. Il y en a 4 ou 5 des équipes. Les autres, ils doivent être des équipes qui produisent des jeunes. Mais après, bon, ils font pas le choix parce que y a d'autres trucs. Il y a les gens qui investissent, qui veulent reprendre leur argent. Ils connaissent Aurélien et je pense Ricardo aussi. Et il y a les présidents qui veulent aussi avoir leur influence d'une manière politique. Donc, tu vois, les académies, c'est vraiment loin derrière dans les préoccupations des gens en Turquie.
Les présidents.
Et alors, les présidents, ouais. Cette analyse du football turc ne serait pas complète sans évoquer son équipe nationale. La Turquie qui a accroché une place de barragiste pour le Mondial 2022.
Mais le takım.
Ouais.
La dernière participation à des Turcs à un Mondial remonte à 2002 et elle avait brillé en Asie en remportant la petite finale face à la Corée du Sud, souvenez-vous.
Presimiz ilanda. O bölgede top kaldı. Hakan gol pozisyonu. Şut! Gol! Gol! Gol! 9. saniye. Hakan Şükür. 9. saniye ve gol. Hakan.
Ah ouais, victoire 3-2 hein, de la Corée du Sud, de la Turquie face à la Corée du Sud, avec un but et une double passe D pour Hakan Şükür. Si la Turquie passe en barrage, elle retrouvera donc la Coupe du Monde 20 ans après. Alors à l'Euro, les Turcs ont été sortis dès le premier tour en 2020 et 2016. Il faut remonter à 2008 hein, pour les retrouver en demi, ce qui d'ailleurs est leur meilleure performance. Ricardo, qu'est-ce qui manque à l'équipe nationale turque pour franchir ce fameux palier?
Qu'est-ce qu'il leur manque? En fait, il leur manque pas grand-chose. Hein. Il leur manque pas grand-chose. Moi, j'étais vraiment incroyablement vraiment surpris, mais dans le mauvais sens du terme, vraiment déçu par leur prestation à l'Euro 2020. Là, en 2021, du coup, là, cet été, c'était vraiment... Il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien du tout avec l'équipe qu'ils ont, avec la génération intéressante qu'ils ont. Je pensais qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais j'étais vraiment surpris, déçu. Voilà, en fait, c'est un tout. Je pense qu'ils ont les joueurs pour déjà pour faire quelque chose d'intéressant. Ils ont un très bon gardien, ils ont une belle attaque, ils ont des joueurs solides derrière avec Çağlar, tout ça, Ozan Kabak et j'en passe. Voilà, je pense qu'ils leur font peut-être plus de cohésion. Voilà, une amélioration sur plan tactique. Là, bon, leur illustre sélectionneur Şenol Güneş est parti. Maintenant, c'est coach allemand qui est arrivé. J'espère qu'il apportera plus de rigueur et peut-être aussi plus de neutralité parce que voilà, l'équipe nationale aussi, elle a assez tiraillé de par les rivalités entre les clubs. Donc j'espère que voilà, tout le monde sera vraiment uni derrière l'équipe et avec l'arrivée justement de Stefan Kuntz, le sélectionneur, j'espère que ça sera plus sérieux en fait. Bon, déjà, il faut se qualifier déjà.
Oui, il y aura ce fameux barrage, tirage au sort, ce sera vendredi prochain d'ailleurs, hein, tirage au sort de ces barrages. Même question Aurélien, tu dirais qu'il manque quoi à l'équipe de Turquie pour monter plus haut finalement?
Non, j'ai la même analyse que Ricardo, parce qu'en plus, les joueurs turcs, ils s'exportent bien, et quand on voit qu'ils s'exportent, ils font plutôt bien dans leur club. Quoi. Maintenant, il faudrait que la mayonnaise prenne, il faudrait que peut-être les intrigues entre les clubs, quand les joueurs sont dans la sélection, qui sache que là, c'est le maillot de l'équipe nationale qui représente, et non Fenerbahçe, Galatasaray ou Trabzon, j'en passe. Donc, non, mais moi, pour moi, je pense que la génération qui arrive, elle sera encore meilleure et qu'elle est en train de profiter de celle qui est en train de disparaître, entre guillemets, parce que ceux-là ont ouvert les portes aux clubs européens et ceux qui sont en train d'arriver pourront facilement profiter de leur expérience. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est encore les coachs. Donc là, ils ont un coach allemand qui va apporter de la rigueur. Il faut qu'il le laisse travailler et que les intrigues, bah, qu'on les laisse de côté pour pouvoir.
Mais tu veux dire quoi par là, Aurélien? Tu veux dire que les guerres de clubs se retrouvent au sein de la sélection? Ça a été le cas dans beaucoup de pays, hein, il y a quelques années. Hein.
Oui, bien sûr. Ça se passe en Turquie, même si on ne le voit pas comme ça de dehors. Moi qui ai été, par exemple, là-dedans, ça se voit. Et puis, ça se voit surtout quand il y a des derbies. Les mecs se tirent la tronche quand ils se retrouvent en sélection parce qu'il y a eu un fait de jeu ou une petite bagarre, ou une petite tension, tu vois, en sélection, ça se voit très vite entre joueurs. Nous, on a ces yeux, là, on voit entre joueurs, en fait.
Ouais.
On le voit.
Ouais,
ou même Şenol Güneş, qui est aussi peut-être estampillé Beşiktaş. Donc forcément, il y a moins de... Trabzon en tant que joueur, et après, dans le coaching, plus à Beşiktaş. Donc voilà, donc par rapport aux sélections, il y a toujours matière polémique, en fait.
Ouais, Youssouf, tu dirais que toi, que finalement, la Turquie est victime du clubisme. Ça a été le cas en Espagne pendant pas mal d'années, au Portugal notamment aussi. C'est ça aussi le problème finalement de l'équipe nationale?
Ouais, c'est un des problèmes. Il faut de la patience, c'est ça le problème. C'est qu'il faut être patient. Tu as 3 défaites après, t'as envie que l'entraîneur parte. Alors que voilà, il y a d'autres équipes, comme le Portugal par exemple, qui a pas très bien performé pendant les éliminations. Pareil pour la France, dans les dernières années, on n'a pas dit que Didier Deschamps devait partir. Donc il faut de la patience, de la continuité. Et d'un autre côté, la révolution du football turc dans les années 80, c'était les Allemands qui l'avaient fait. Feldkamp qui est arrivé, le sélectionneur allemand, il a tout changé, les terrains, l'alimentation, ils ont formé des entraîneurs, donc Fatih Terim, il a été formé comme ça. Ils ont détecté dans toute la Turquie des jeunes joueurs, et ces jeunes joueurs qui ont été détectés, donc par une équipe dont faisait partie Fatih Terim. Et ils sont arrivés à Galatasaray. Beaucoup d'entre eux sont arrivés à Galatasaray. Ils ont été champions 4 fois de suite. Ils ont gagné la Coupe de UEFA et ils ont été au Mondial 2002 demi-finaliste. Après, c'est différent, tu vois. Là, il y a une autre génération, comme l'a dit Ricardo. Il faut de la rigueur. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a de jeunes entraîneurs turcs qui arrivent, qui sont très bons, je pense qu'ils vont être très, très bons. Et ils devraient s'exporter comme le font les Portugais, par exemple, en Europe, pour pouvoir voir d'autres cultures. L'équipe nationale turque, et surtout le football turc, a besoin de patience. On a la qualité, on arrive à... Bon, il y a une crise économique, mais on dépense.
Il n'y a pas de fracture avec le public pour autant, si. C'est d'abord les clubs et après la sélection, ou alors quand l'équipe turque
joue... Ça a été fracturé, comme l'a dit Aurélien, parce que quand tu jouais à Galatasaray, dans le stade de Galatasaray avec l'équipe nationale, il y a des joueurs qui ont été sifflés. Fenerbahçe, pareil, Beşiktaş, pareil. Donc, il y a du clubisme, forcément, parce que ça ressemble beaucoup... C'est des pays méditerranéens, donc ça ressemble beaucoup au Portugal, à l'Espagne. Il y a beaucoup de clubs. Le club passe avant l'équipe nationale. Et après, comme je t'ai dit, si tu arrives à avoir une continuité, si tu arrives à avoir de bons résultats avec une nouvelle génération, tu passes l'éponge. Tu vois, tu oublies très vite. En Turquie, on n'a pas beaucoup de mémoire, donc on oublie très vite. Si cette génération arrive à se qualifier pour le mondial, ce qui est difficile parce qu'on n'est pas tête de série, on risque de tomber contre l'Italie, le Portugal, etc. Donc c'est assez difficile pour nous. Mais si on arrive à avoir la continuité de pouvoir aller au championnat d'Europe, au mondial, etc., je pense que le clubisme va aussi s'effondrer en Turquie. Donc c'est une des raisons, mais ça peut s'effacer très vite.
Messieurs, ce podcast spécial foot turc touche à sa fin. Merci beaucoup les gars, bravo pour la qualité de vos analyses. Merci Youssouf Djalik, qui va bientôt lancer une chaîne YouTube en plus, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, j'en ai marre des médias, je vais y travailler tout seul.
Tu seras ton propre boss.
On va suivre ça.
C'est ça.
Ouais, t'as raison. Écoute, nous on te rappellera dans l'after, hein. Sache-le, t'es le bienvenu mon gars.
Ouais, merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup Ricardo Fati, prends soin de toi et de la famille.
Merci Nico.
On te laisse finir tes œufs sur le
plat. Merci à tous, c'était cool. Non, ça y est.
Ah, c'est fini.
C'était pour les enfants. Ils viennent de rentrer les enfants là. C'était pour eux.
D'accord. Parce qu'en fait, Ricardo, il a gardé le régime alimentaire de Turquie. Donc c'est kebab le midi. C'est ça avant d'aller à l'entraînement.
J'aurais bien aimé, mais non, malheureusement là, c'est.
Vous
pasta,
êtes invité.
Pasta.
Vous êtes invité si vous venez en Turquie. Nico a mon numéro quand vous voulez. Il y a
gentil.
Pas de problème. Moi, je vous accueille.
Je suis jamais allé en plus. Il paraît qu'Istanbul est une ville magnifique, tu vois. Donc je rêve d'aller voir.
Quand vous voulez.
Nico, t'es jamais allé à Istanbul.
Non, et je rêve d'y aller vraiment.
Venez.
Incroyable.
Venez.
Ah bah tu devrais.
Là, j'ai plus de temps, Nico. Nico, j'ai plus de temps. Je travaille pour moi, donc viens quand tu veux.
C'est parti. Bah, la vie est faite. Merci Aurélien
Chedjou. Il faut réparer cette anomalie.
Merci à Jimmy Brown à la production. Merci Julie Doro à la réalisation. Prenez soin de vous et surtout, bisous. Seni gidip kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim.